Les deux orphelines, cinquième partie, chapitre 12. Dès le lendemain, le docteur Hébert était allé rendre visite à son nouveau protégé. Pierre, d'après les renseignements fournis par le concierge de l'hôpital, avait passé une nuit d'insomnie et de larmes. En apercevant le médecin, le pauvre garçon courut au-devant de lui, agité par la plus vive émotion. Il ne trouvait pas de paroles pour exprimer la reconnaissance qui débordait de son cœur. « Bon, bon, » dit Monsieur Hébert avec bonté, « nous avons autre chose à faire, mon ami, que de nous abandonner à cette émotion. Ce qu'il vous faut, au contraire, c'est du calme et du courage. Suivez-moi. » Il emmena le rémouleur dans son cabinet. « Si je suis venu, » commença-t-il, avant l'heure ordinaire de mes consultations, c'est que j'ai besoin de causer sérieusement avec vous. J'ai beaucoup de choses à vous dire. » Et comme Pierre paraissait tout surpris et tout émotionné de ce début, « Asseyez-vous là, dans ce fauteuil, » ajouta le médecin, « et répondez nettement, franchement, à toutes les questions que je vais vous adresser. » Le rémouleur obéit. C'était la première fois de sa vie qu'il s'asseyait dans un fauteuil. Il se trouvait quelque peu mal à l'aise et eût préféré qu'on lui permît de rester debout. Mais comme M. Hébert avait commandé, Pierre se décida à s'asseoir. Et pour cela, il dut tendre sa jambe cassée, qu'il ne pouvait que très imparfaitement plier. « Ah, mon ami, » fit le docteur, « nous avons la jambe raide aujourd'hui. »« Pas plus que les autres jours, monsieur le médecin. Cependant, vous marchez beaucoup, malgré votre infirmité. Je cours lorsque je suis pressé de rapporter l'ouvrage de la pratique. » Et vous souffrez alors? Quelquefois, mais je n'y fais pas attention. Il y a si longtemps que je suis habitué à souffrir. Voyons, dites-moi comment vous êtes devenu boiteux. Oh, ce n'est pas d'aujourd'hui, ni d'hier, monsieur le médecin. Vous ne répondez pas à ma question. J'étais tout petit quand l'accident m'est arrivé. Aussi, je suis habitué. C'est comme si j'étais né avec cette jambe plus courte. Pierre était devenu tout rouge. M. Hébert l'observait. Au bout d'une minute, il reprit. « Est-ce que vous ne vous souviendriez plus de la façon dont vous êtes devenu boiteux? Si vous étiez tout à fait enfant, votre mère a pu vous dire comment s'était produit l'accident. » Le rémouleur gardait le silence. Il répugnait, à ce cœur généreux, d'accuser son frère mort. Et comme il avait l'air embarrassé, M. Hébert continua. « Êtes-vous tombé accidentellement? Non, monsieur le médecin. Alors, vous avez commis quelque imprudence. » Pierre avait bonne envie de mentir, mais son regard rencontra les yeux du docteur fixés sur les siens, et il n'osa pas. « Je vais vous dire, » répondit-il, « comment ça s'est fait. J'étais enfant et c'est en me battant. » « Comment vous battant? Vous étiez donc querelleur ?»« C'est-à-dire, monsieur le médecin, c'était en me débattant. » « Contre qui ?» Pierre hésita de nouveau pendant quelques secondes, puis d'une voix tremblante, « J'aime mieux vous avouer la vérité tout de suite, monsieur le médecin. J'aurais honte de vous mentir, à vous, qui avez eu tant de bonté pour moi. » Et en quelques mots, le pauvre garçon raconta au docteur dans quelles circonstances son frère, Jacques Frochard, lui avait cassé la jambe parce qu'il refusait de voler un manteau à l'étalage d'un fripier. Monsieur Hébert écouta le récit. Et quand Pierre eut cessé de parler, « Et personne ne vous a donc soigné ? » s'informa-t-il. « Si fait, monsieur, c'est ma mère d'abord qui m'a serré la jambe, et elle a fait venir un rebouteur qu'elle connaissait. »« Et c'est tout ? » ?»« C'est tout ce que je sais, monsieur le médecin. » Monsieur Hébert arpentait le cabinet de long en large comme un homme fortement préoccupé. Tout à coup, il s'arrêta de nouveau devant le rémouleur en disant « Il faut me montrer ta jambe, mon ami. » Étonné, Pierre répondit en balbutiant. « Oh, c'est pas la peine, mon bon monsieur. Il n'y a rien à faire. Et puis, je suis habitué à vivre comme ça. » « Allons, allons, montre-moi cette jambe-là, » commanda le docteur d'un ton d'autorité qui ne souffrait ni réplique ni refus. Et comme Pierre s'était levé pour obéir, « Monte là-dessus, » dit le docteur en indiquant la table longue en chêne sur laquelle il faisait placer les blessés pour procéder à l'examen des parties atteintes. Le rémouleur, s'étant assis tant bien que mal sur la table, « Couche-toi de tout ton long, » ajouta M. Hébert. Et aussitôt, il se mit lui-même à défaire les boutons qui fermait par le bas la culotte et mit à nu la jambe depuis la cheville jusqu'au-dessus du genou. Puis il procéda à un examen consciencieux, tâtant les muscles, palpant les chairs, s'assurant de la façon dont la réduction avait été pratiquée. Et il marmottait « Maladroit, boucher, vétérinaire, si l'on peut gâcher de la besogne comme ça !» Pierre ne bougea pas pendant tout le temps que dura cet examen, dont il ne comprenait pas la nécessité. Mais quand M. Hébert eut achevé de lui palper les os et la peau, « Pas vrai, monsieur le médecin, hasarda-t-il, qu'il n'y a rien à faire. « Qui t'a dit cela ? » s'exclama M. Hébert en frappant du poing sur la table. « Mais je croyais, balbutia le rémouleur. « Que peux-tu savoir, ignorant que tu es ?»« C'est vrai, monsieur le médecin, que je ne suis qu'un pauvre diable qui ne sait ni lire ni écrire. C'est à peine si je sais compter sur mes doigts. Aussi, excusez-moi, monsieur le médecin, de ce que j'ai dit. » M. Hébert radoucit sa voix. Et c'est d'un ton paternel qu'il dit à Pierre. « Tu peux rajuster ta culotte, mon ami. Je suis fixé sur ce qu'il y aurait à faire pour que ta jambe cassée puisse être ramenée à la longueur de l'autre. » Le rémouleur s'était redressé sur son séant pour relever son bas qui pendait sur la cheville. En entendant les paroles que prononçait le docteur, il s'interrompit dans sa besogne et timidement. « Comment ? » dit-il. « Est-ce que c'est possible ? Je pourrais donc marcher droit ? Moi ? Un boiteux ?» M. Hébert ne put s'empêcher de sourire de la stupéfaction qui se lisait sur le visage du pauvre garçon. Et c'est avec bonté qu'il répondit. « Il est bien certain que si je rajustais ta jambe, tu ne serais plus boiteux. Et je marcherais, comme tout le monde ? Absolument, comme le premier venu qui n'aurait pas subi d'accident. Comme moi, comme la petite aveugle, par exemple, » ajouta-t-il en le regardant en face. « Mademoiselle Louise ?» Le nom s'était à peine échappé des lèvres du rémouleur qu'il devenait rouge jusqu'aux oreilles et baissait les yeux comme s'il eût dit une énormité. M. Hébert eut un regard plein de malice à l'adresse de ce pauvre diable qui laissait ainsi deviner le secret qu'il croyait pouvoir cacher à tous, comme il se l'était caché à lui-même pendant longtemps. « Oh oh ! » dit-il, « je vois avec plaisir, mon ami, que tu n'as pas oublié la pauvre jeune fille que tu avais prise en amitié. Elle était si malheureuse chez nous, monsieur le médecin. Et puis, malgré sa cécité, elle était si jolie, n'est-ce pas ? Ses grands yeux étaient tout aussi beaux que s'ils n'avaient pas été privés de la lumière. N'est-il pas vrai ? Pierre, de rouge qu'il était l'instant d'avant, était devenu subitement pâle et ses lèvres tremblaient sans pouvoir articuler un mot. Par bonheur pour lui, le docteur vint à son secours en reprenant. « Eh bien, mon garçon, je suis certain de pouvoir redresser ta jambe. »« C'est idiot possible ?» Et les yeux du rémouleur brillèrent de lueurs rapides sous l'impression d'une idée de bonheur qui lui traversa l'esprit. « Oui, » continua M. Hébert, qui décidément semblait prendre plaisir à observer son protégé, afin de reconnaître s'il y avait en cet être assez d'étoffe pour qu'il pût donner suite au projet qu'il méditait. « Oui, mon ami, je suis assez bon chirurgien, je crois, pour que tu puisses avoir entièrement confiance en moi. »« J'ai toute confiance en vous, monsieur le docteur, » déclara Pierre avec empressement. « Dans ces conditions, nous pourrons reprendre, un jour ou l'autre, cette conversation. » Le rémouleur s'était attendu à tout autre chose. C'est que depuis qu'on lui avait parlé de la possibilité, bien mieux, de la certitude pour lui d'arriver à ne plus boiter, à marcher sans que son buste se balançât de droite à gauche, Pierre s'était tout de suite fait à cette idée consolante qu'un jour viendrait, ou peut-être, il pourrait se trouver en présence de Louise guérie de sa cécité et pouvant le voir. Aussi, quand le docteur Hébert eut mis, ainsi qu'il venait de le faire brusquement, un terme à cette conversation qui l'intéressait si fort, le rémouleur éprouva-t-il une grande déception. Le médecin s'en aperçut et s'y attendait probablement, car c'est avec un bon sourire qu'il dit à Pierre. « Du reste, mon ami, nous avons à penser, dans ton intérêt, à tant de choses diverses que chacune d'elles doit venir à son tour. « Oh, monsieur le docteur, que vous êtes bon et charitable de vouloir vous occuper de moi !» Et comme il faisait une seconde fois mine de saisir la main de son bienfaiteur pour la porter à ses lèvres, « Assez d'effusion comme ça !» grommela M. Hébert en reprenant son ton de bourru bienfaisant. Puis il ajouta en regardant en face son interlocuteur. « Tu n'auras peut-être pas toujours la même envie de m'embrasser les mains, car elles te feront probablement beaucoup souffrir. » Pierre crut évidemment que le médecin voulait se moquer de lui. Il essaya d'ébaucher un sourire d'incrédulité. « Adam, mon ami, ce n'est pas sans te martyriser un peu qu'il me sera possible de te mettre en situation de pouvoir figurer dans les gardes françaises. » Et s'interrompant. « Au fait, demanda-t-il brusquement, aurais-tu du goût pour l'état militaire? Un pauvre diable comme moi? Je n'ai jamais songé à cela. » « Hélas, soupira le boiteux, je sais bien que ça me faisait grand plaisir, quand j'étais petit, et même plus tard, d'accompagner les soldats qui allaient à la parade. Je me mettais l'eau à la peau, afin de les suivre quand ils prenaient le pas accéléré, et que le tambour-major faisait sauter en l'air sa canne qu'il rattrapait au vol. Et puis, il y avait aussi les officiers avec leurs épaulettes brillantes, dont la vue me faisait sauter quelque chose dans le cœur. » Et tout en parlant avec une animation croissante, le fils de l'affrochard cherchait à se tenir droit sur ses jambes et à redresser son buste comme s'il eût été lui-même sous les armes. « Alors, si tu l'avais pu, tu te serais fait soldat, dans l'espoir de devenir un jour officier ?»« Oh non, non !» et baissant la voix. « Le sergent racoleur n'aurait pas voulu de l'enfant d'un homme mort sur l'échafaud. » Et le visage du rémouleur avait repris son expression de tristesse un instant disparu. « C'est vrai, » fit M. Hébert. On n'ose pas donner son nom quand on porte celui d'un supplicié. Aussi, mon ami, je vais m'occuper de t'en faire changer. » « Me faire changer de nom ? » interrogea Pierre avec anxiété. Puis courbant le front. « Je sais bien que ça ne se peut pas. Le roi veut tout ce qu'il veut, » dit gravement le docteur. « Le roi ? » répéta le rémouleur au comble de la surprise. « Le roi ? On obtiendrait donc que sa majesté s'occupât d'un misérable tel que moi ?» Tout ce qu'il venait d'entendre lui bourdonnait dans le cerveau, et toujours le nom de Louise lui venait à l'esprit. Il le prononçait tout bas, dans un murmure, et pour ainsi dire, involontairement. Puis, sans transition, il se prenait à songer à ce que le médecin lui avait dit tout à l'heure. « Le roi de France peut tout ce qu'il veut. » Pierre se demanda, pendant les quelques secondes de silence qui suivirent, ce que pouvait bien signifier cette phrase dans la bouche du médecin. Le docteur interrompit ses réflexions, qui bouleversait le cerveau du pauvre garçon. « J'aime à te voir cette animation, cette ardeur que je ne soupçonnais pas en toi. »« Excusez-moi, monsieur le médecin, » fit Pierre, reprenant tout aussitôt son air timide. Et comme il baissait la tête pour éviter de rencontrer les regards du docteur, « Relève la tête, » commanda monsieur Hébert. « J'aime qu'on me regarde en face. Du reste, pour ce qu'il me reste à te dire, j'ai besoin de lire sur ton visage. » Le rémouleur obéit. « Maintenant, « écoute-moi bien, mon ami, et réponds-moi franchement. » Et brusquement, il ajouta. « Tu consens à subir une douloureuse opération ?» Pierre allait pousser une exclamation de surprise. C'était la première fois que le docteur lui parlait de cette opération. M. Hébert poursuivit. « Ton infirmité, m'as-tu dit, date de loin et rendra par conséquent cette opération plus difficile. » Pierre balbutia quelques mots qui pouvaient passer pour une réponse affirmative. Le docteur reprit aussitôt. « C'est bien, et puisque ta résolution est prise, après-demain nous pratiquerons cette terrible opération. »« Après-demain ? » s'exclama le malheureux garçon, qui cette fois ne put dissimuler l'effarement qui se peignait sur ses traits. « Oui, » insista le docteur, « mieux vaut tout de suite que plus tard. Du moment que tu es tout disposé, je ne veux pas te faire languir. Je te préviens, » ajouta-t-il, « qu'il te faudra pendant 6 semaines rester étendu sans bouger, pour ne pas déranger l'appareil que je t'appliquerai à la jambe pour la redresser. » Pierre ouvrait de grands yeux où se lisait l'angoisse qui commençait à l'envahir. Le docteur lui prit la main qu'il garda dans la sienne, puis changeant de ton. « Est-ce que par hasard, dit-il, tu hésiterais à subir l'opération ? Me serais-je trompé et manquerais-tu de courage ?»« Non, non !» s'empressa de répondre Pierre, commandant à l'émotion qui l'étreignait à la gorge. « Non, monsieur le médecin, je ne manquerai pas de courage. Vous ne m'entendrez ni crier, ni me plaindre. Je serai brave, je vous le promets, je vous le jure. » Ce jour-là, le docteur Hébert put acquérir la certitude qu'il avait deviné juste en supposant que Pierre le Boiteux et Louise l'Aveugle nourrissaient l'un pour l'autre une vive affection dont ils ne comprenaient probablement pas eux-mêmes toute l'étendue. Que pouvaient-ils savoir de l'amour ? Ces deux êtres, dont l'un avait passé sa jeunesse dans le taudis infect de l'affrochard, vivant au hasard, n'ayant sous ses yeux que l'exemple de toutes les mauvaises passions, dont l'autre avait été élevé pieusement par cette femme si éprouvée qui se nommait Madame Gérard et qui n'avait jusqu'ici connu d'autre amour que l'affection filiale qu'elle portait à sa mère d'adoption et ce sentiment fraternel si pur qu'elle ressentait pour Henriette, sa sœur de lait. Et cependant, pour le profond observateur qu'était M. Hébert, Pierre et Louise s'aimaient d'amour, comme si la Providence les eût fait se rencontrer tout exprès pour l'union de leurs deux cœurs. Le docteur l'avait compris dès les premiers moments du séjour de Louise chez la comtesse de Lignières. Il ne s'était pas dissimulé, ainsi qu'on l'a vu précédemment, que la cause de la mélancolie observée chez l'aveugle ne dépendait nullement du chagrin que lui inspirait sa cécité. « Je lirai bientôt couramment dans le cœur de cette jeune fille », avait-il dit à Diane. Aussi avait-il décidé que les visites qu'il rendrait à sa malade seraient plus fréquentes. Il prenait pour prétexte les soins préliminaires à donner à l'aveugle en vue de la préparer à l'opération délicate qu'il allait pratiquer. Chaque fois que M. Hébert retournait à l'hôtel de Lignières, il ne manquait jamais de dire à Louise « Pour que je me décide à vous opérer, mon enfant, il faut que je trouve votre état général tout à fait satisfaisant. Or, la première condition pour cela, c'est que le moral chez vous ne soit pas affecté. » Et comme Louise, à ces paroles du docteur, ne pouvait se défendre d'un certain petit tressaillement, M. Hébert s'empressait d'ajouter « Tenez, en ce moment, par exemple, je suis persuadé que votre cœur bat avec plus de précipitation qu'il ne conviendrait. Et puis, j'ai la conviction que votre esprit est inquiet. Dans ces conditions, vous aurez un sommeil agité. Vous éprouverez en vous réveillant une lassitude générale. Vos nerfs seront irrités. Et il me faudra attendre que vous ayez retrouvé le calme indispensable pour que vous supportiez l'opération sans danger. » La pauvre aveugle, toute rougissante qu'on ait pu lire aussi profondément en elle, baissait la tête comme une écolière surprise en faute. M. Hébert reprenait alors de sa voix la plus paternelle. « Vous ne tenez donc pas à recouvrer bientôt la vue ? Il ne vous tarde donc pas, mon enfant, de mieux connaître les personnes qui vous entourent et que vous affectionnez ?»« Oh, si fait, monsieur le docteur !» s'exclamait Louise. « Il faut alors faire tout ce qui est nécessaire pour cela. Me le promettez-vous ? » La pauvre enfant s'efforçait bien d'obéir aux prescriptions du docteur. Elle promettait toujours, et le lendemain, M. Hébert était obligé de renouveler sa paternelle semonce. De son côté, Henriette l'observait aussi, mais la fiancée du chevalier de Vaudrey avait des préoccupations personnelles qui absorbaient son esprit. Il y avait déjà bientôt 2 mois que Roger était parti pour se rendre en Amérique. Et Mademoiselle Gérard comptait les jours, sachant bien qu'on serait encore longtemps sans nouvelles des troupes que commandait le marquis de Lafayette. Elle avait accepté cette séparation avec résignation. Mais après la joie qui avait envahi son âme, à l'idée qu'elle serait unie à l'homme pour l'amour duquel elle avait tant souffert, elle éprouvait maintenant des inquiétudes nouvelles qu'elle dissimulait de son mieux quand elle se trouvait en présence de la comtesse et de Louise. Seul Picard, ce serviteur si dévoué à Roger, était au courant des inquiétudes et des tourments de la fiancée de son maître. Quand il l'accompagnait le soir chez le docteur Hébert, ainsi qu'il en avait l'habitude, le brave valet amenait la conversation sur l'expédition française qui faisait route vers le Nouveau Monde. Il était, disait-il, bien renseigné, ayant des amis au ministère de la Marine. Il saurait par conséquent toutes les nouvelles, aussitôt que le ministre lui-même. Henriette l'écoutait, émue, mais incrédule. C'est que, malgré tous les efforts qu'il faisait pour rassurer Henriette, Picard n'était rien moins que tranquille. Il connaissait les dangers de la traversée qu'avait entreprise le chevalier de Vaudrey. Ce qui le tourmentait surtout, c'est que dans une récente conversation qu'il avait eue avec l'huissier du cabinet du ministre de la Marine, il avait appris que le petit corps d'armée du général de Lafayette courait grandement risque de ne pas arriver à destination, n'étant convoyé que par 2 petits brigues de guerre. Picard s'était récrié contre ces suppositions pessimistes. « Quel danger court donc l'expédition ? » avait-il demandé. « De nombreux, mon ami Picard, croisant mon expérience d'ancien marin. » L'huissier avait en effet la prétention d'être un vieux loup de mer, et chaque fois qu'il en trouvait l'occasion, il ne manquait pas de raconter ses nombreux exploits maritimes. Aussi prenait-il des grands airs avec ce pauvre Picard qui, lui, en fait de navigation, n'avait à son actif que les traversées sur la Seine d'une rive à l'autre. Tu demandes quel danger on court en mer, Picard? Disait l'huissier avec suffisance. Tu n'as jamais voyagé, c'est entendu, mais tu aurais pu lire les livres traitant de notre histoire maritime, des voyages de nos explorateurs célèbres, des hauts faits d'armes de nos marins, tels que Duguay-Trouin, Jean Bart. Et moi-même, peut-être, si une grave blessure ne m'avait forcé de quitter le service. C'est vrai, j'aurais pu lire tout ça, répondait Picard, mais je ne serais pas plus fixé sur le genre de danger que peut courir mon jeune maître. Ils sont multiples, mon ami Picard. Mais encore. Ah, si comme moi tu avais été un matelot distingué, tu n'ignorerais pas ces choses-là. Aussi, monsieur de la Pérouse, quand j'étais à son bord, avait-il grande confiance en moi? Picard voyait poindre le récit. Il en prenait son parti, espérant qu'après avoir fait la narration d'exploits imaginaires, l'ancien marin voudrait bien lui donner les renseignements qu'il attendait de lui. Oui, continuait l'huissier, c'était le beau temps de la marine. Nous avions presque tous les jours l'occasion d'envoyer des pruneaux à ces marsouins d'anglais. Leur en avons-nous coulé de ces navires avec monsieur de la Pérouse? Et quels abordages! Il fallait nous voir, la hache au poing, sauter sur le pont des navires anglais. Rien ne nous résistait, maître Picard. Mais, insinuait le vieux valet, les dangers! Les dangers! Comment? Tu ne trouves pas que nous en affrontions d'assez sérieux? Est-ce donc un jeu d'enfant de sauter d'une vergue française sur une vergue anglaise, tandis que les soldats de marine vous canardent à bout portant? Oui, j'en conviens, c'était là les dangers que vous couriez quand monsieur de la Pérouse ordonnait le branle-bas de combat. Mais monsieur le chevalier n'a pas ça à craindre. Tu crois? Et se campant sur la hanche. Je t'ai dit, Picard, que monsieur de Vaudrey courait des dangers multiples. Je ne retire pas un mot de ce que j'ai avancé. D'abord, rien n'est perfide comme la mer. À ce qu'on prétend. Tu peux t'en rapporter à ma grande expérience. Les flots sont redoutables, terribles, et surtout capricieux. C'est juste, on dit, changeant comme les flots de la mer. Donc, maître Picard, les transports qui portent l'expédition peuvent rencontrer en route ce que nous autres marins, nous appelons des gros temps. Et qui n'a pas vu de naufrage ne peut pas se faire une idée du terrible moment que l'on passe sur un navire, même le plus grand, quand la mer se met en fureur. On dirait une coquille de noix dans le bassin d'Apollon quand on fait jouer les grandes eaux de Versailles. « c'est juste !» balbutiait le valet de confiance de monsieur de Lignières. « Les naufrages ? C'est juste, je n'avais pas pensé à cela !» Et le pauvre homme, très émotionné, essuyait violemment son front. « Mais si ce n'était que ça !» reprenait le narrateur. « Mais il y a autre chose !»« Quoi encore, mon Dieu ?»« Les croisières !» Qu'est-ce que c'est que ça? Ces diables d'anglais pourchassent les navires ennemis, et ils considèrent comme tels tous les bâtiments qui transportent les troupes qui vont combattre avec Washington pour l'indépendance américaine. Vraiment? Un grand nombre de frégates, corvettes et briques anglais croisent dans l'Atlantique afin de barrer la route aux navires frétés par le marquis de Lafayette. Le pauvre Picard écoutait maintenant en écarquillant des yeux effarés. Il ne pouvait plus douter de la véracité du récit qu'on lui faisait. « Eh bien, reprenait l'huissier, sont-ils assez multiples les dangers ? Ah, s'il nous avait consulté, monsieur de la Pérouse et moi, avant de partir, votre jeune maître ne se serait probablement pas risqué dans une entreprise qui, de l'avis de nous tous, hommes compétents, ne peut aboutir qu'à un effroyable désastre. »« Un désastre ? Mais en êtes-vous bien certain ? Si c'est certain, impossible, hélas, d'en douter. C'est bien pour cela que Sa Majesté le roi Louis XVI, notre maître à tous, a d'abord voulu s'opposer à ce que des Français aillent se faire écharper là-bas. Il avait refusé de donner son agrément à l'expédition que M. le marquis de Lafayette entreprend d'une façon si téméraire. Les Anglais sont nombreux, bien armés, disciplinés, commandés par des chefs capables. Que voulez-vous que fassent contre tout cela des bandes indisciplinées, mal équipées et très insuffisamment armées? Ce ne sont en somme que des recrues qui ne tiendront pas longtemps contre l'armée anglaise aguerrie comme elle l'est. Voilà dans quel guépier est allé se fourrer votre jeune maître. Et je ne vous ai dit qu'une partie des dangers qui pourront l'atteindre dans le cas où il échapperait aux croisières anglaises. Et l'huissier ajoutait, c'est que dans ce cas, les prisonniers ne sont pas considérés comme des soldats réguliers. On les traite ainsi que des pirates et on s'en débarrasse d'une façon tout à fait sommaire, sans leur faire l'honneur d'un jugement devant le conseil de guerre. Que me dites-vous là? La vérité vraie, parbleu! Ce que nous savons tous, nous autres marins. Il n'y a que toi, maître Picard, pour ignorer qu'on pend les pirates au bout des vergues, où ils se balancent jusqu'à ce que mort s'en suive. Après quoi, on daigne leur faire l'honneur de jeter leur corps en pâture aux poissons. On comprend que, renseigné de la sorte, Picard éprouva quelque embarras à rassurer Henriette et que, tout en simulant la quiétude la plus parfaite, il était lui-même sur des charbons ardents, en attendant d'avoir reçu des nouvelles de Roger. Il n'en continuait pas moins à se rendre le plus souvent possible auprès de l'ancien compagnon d'armes de la Pérouse, et cela dans l'espoir qu'un jour ou l'autre, il apprendrait quelque chose concernant l'expédition dont faisait partie le chevalier de Vaudrey. Or, un jour, il arriva tout joyeux au moment d'accompagner Henriette et Louise, qui se rendaient à la consultation du docteur Hébert. « Bonne nouvelle, bonne nouvelle !» dit-il aux deux jeunes filles, dès qu'il fut seul avec elles dans la rue. « Bonne nouvelle, mesdemoiselles. Ah, vous m'envoyez tout gonflé de bonheur !» Et comme Louise et Henriette paraissaient tout étonnées de cette exubérance dans la joie que manifestait le vieux serviteur, celui-ci ajouta « Il ne faut pas attendre que je vous fasse un long récit, mesdemoiselles, de tout ce que j'éprouve en ce moment. Qu'il vous suffise de savoir que je vous apporte de bonnes, d'excellentes nouvelles de... » « De qui ?» interrogea vivement Henriette. « Mais de mon maître, monsieur le chevalier !» Henriette porta vivement la main à son cœur, sous l'impression qu'il la saisissait à l'improviste. Elle adressa à Picard un regard plein d'anxiété. Le vieux serviteur reprenait avec vivacité. « C'est auprès de Monseigneur le ministre de la Marine lui-même que nous avons recueilli ces heureuses nouvelles que nous vous apportons, mademoiselle. Sachez que monsieur le chevalier de Vaudrey a été rencontré en pleine mer, c'est-à-dire que c'est le navire sur lequel il a pris passage qui a été rencontré. « En pleine mer ?» riposta Henriette avec un soupir, comme si elle eût espéré mieux à en juger par la joie qu'avait manifestée Picard. « Oui, oui, je comprends que vous soyez impatiente, mademoiselle, mais nous ne pouvons pas aller plus vite que ça. C'est que la traversée est longue, et, ma foi, je trouve que c'est bien heureux que nous puissions avoir des nouvelles de monsieur le chevalier avant même qu'il soit arrivé à destination. » Picard se donnait beaucoup de mal pour faire croire à ses connaissances en fait de navigation. Il poursuivit donc avec empressement. « Un navire de notre marine royale a rencontré les transports frétés par le général de Lafayette. « Ah, attendez donc, que je me souvienne au juste, » fit-il en se grattant le front pour se rappeler ce que lui avait dit l'huissier du cabinet du ministre. « Attendez donc, il y a du « Ali » dans le mot ?»« Ah oui, m'y voici, c'est bien ça. « Ali, Halifax, parfaitement. C'est bien un peu au-dessous d'Halifax que notre navire de la marine royale a rencontré les bâtiments transportant les courageux Français qui vont combattre les Anglais dans le Nouveau Monde. » Il paraît, s'empressa d'ajouter Picard, qui voulait faire preuve d'érudition, il paraît que ce n'est pas la route tout à fait directe, mais c'est le gros temps qui a chassé les navires français un peu vers le nord. Enfin, d'après le rapport qui m'a été communiqué au ministère, tout allait bien à bord de ces navires. Donc, mesdemoiselles, nous pouvons espérer qu'à l'heure actuelle, le corps d'armée de notre vaillant compatriote, monsieur le marquis de Lafayette, a déjà fait sa jonction avec les troupes du général Washington, et que nous allons tailler des croupières aux Anglais et les poursuivre l'épée dans les reins, jusqu'à ce qu'ils se rembarquent pour l'Angleterre. Alors, mademoiselle Henriette, nous reviendrons couverts de gloire, mettre tous nos lauriers moissonnés sur les champs de bataille à vos pieds. « Car c'est pour vous, » poursuivit Picard en s'attendrissant, « c'est par amour pour vous que nous aurons fait des prodiges de valeur, dignes des héros anciens et futurs. Nous serons fiers alors de devenir votre époux et de vous présenter à la cour de Sa Majesté le roi de France. » Mais ce que Picard n'avait pas ajouté, bien que son ami l'huissier du ministère le lui eût dit, c'est qu'une escadre anglaise tenait précisément la mer dans ses parages et gardait les côtes pour s'opposer à tout débarquement des troupes signalées comme ayant quitté la France pour aller au secours du général Washington. Le commandant de la corvette française avait rencontré, disait-il, l'escadre anglaise dans les eaux de Terre-Neuve et faisant voile dans la direction d'Halifax. L'huissier, qui n'était rien moins que partisan de l'intervention du marquis de Lafayette dans les affaires d'Amérique, prévoyait une catastrophe pour l'expédition si l'escadre anglaise pouvait arriver à temps, ce qui, il ne le dissimulait pas, était très probable car les navires anglais rencontrés avaient l'air d'être d'excellents voiliers. Henriette avait écouté, tout émue d'abord de la satisfaction éprouvée à l'annonce de ce que Picard appelait les bonnes nouvelles, mais bientôt elle était retombée dans une profonde mélancolie. Et pendant le reste du trajet, elle garda le silence, estimant que ce serait peine inutile d'interroger le vieux serviteur de Roger, car le brave homme ne paraissait pas en savoir plus long qu'il n'en avait raconté. Or, cette nouvelle ne satisfaisait que médiocrement la jeune fille. Elle en avait tout de suite conclu que de longs mois la séparaient encore du jour où elle verrait revenir son cher chevalier. Il semblait que son esprit fût hanté par quelque sombre pressentiment. Louise gardait le silence, n'osant interrompre la rêverie qu'elle supposait avoir envahi son amie. N'était-elle pas au surplus elle-même absorbée dans des pensées douloureuses? Certes, en entendant parler de nouvelles reçues et que Picard annonçait bonnes, l'aveugle avait éprouvé une impression de joie à l'idée du bonheur qu'allait ressentir Henriette. Mais après cette première sensation, Louise avait rapproché les deux situations, la sienne et celle d'Henriette, pour en tirer cette conclusion qu'un jour son amie, sa sœur, serait l'épouse de Roger qu'elle aimait, et qu'après avoir subi de cruelles épreuves, elle aurait une douce compensation à ses longs jours de désespoir et de larmes. Mais elle, que pouvait-elle espérer au-delà de cette vie bien paisible, bien calme, qui s'ouvrait maintenant devant elle? Ne devait-elle pas se contenter du tranquille bonheur que lui réservait sa bienfaitrice? Ne devrait-elle pas renoncer aux émotions de l'âme, aux sentiments du cœur? Ne serait-elle pas contrainte enfin à dissimuler les impressions qui se produiraient en elle quand sa pensée se reporterait vers le passé? Oui, elle serait obligée de cacher soigneusement ce qu'éprouverait son cœur lorsqu'elle se rappellerait qu'au jour de désespoir et de larmes, une voix lui murmurait tout bas des paroles d'espérance, et qu'involontairement elle y pensait toujours et cherchait à retrouver les modulations de cette voix amie. Elle serait obligée de refouler les larmes qui lui montraient aux paupières chaque fois que le souvenir de ce pauvre garçon qui l'avait consolée lui reviendrait à l'improviste, comme cela était déjà arrivé bien souvent depuis qu'elle avait été recueillie par la comtesse de Lignières, et surtout depuis qu'elle n'avait plus entendu le rémouleur pousser le cri de son métier. Oui, se disait-elle tout en marchant, le bras passé sous le bras de son amie, tandis que le jour viendra qui devra mettre le comble aux espérances d'Henriette et de Roger, moi, je devrais renoncer même à la joie de me retrouver avec celui qui a été mon sauveur au péril de sa vie et auquel j'ai conservé une reconnaissance éternelle. Picard, après avoir donné libre cours à sa joie d'avoir rapporté un message de bonheur, s'imposa lui aussi le silence qu'observaient les deux jeunes filles. Il les regardait avec cette expression paternelle qui se reflétait sur sa bonne physionomie, cherchant à deviner les pensées secrètes qui pouvaient s'agiter en elle. Il s'était attendu, il faut l'avouer, à un tout autre résultat, et la tristesse qu'il remarquait chez les deux orphelines n'était pas sans le tourmenter. Et mentalement, il se promettait bien de tirer la chose au clair, et le plus tôt possible, dût-il, pour y arriver, demander l'appui du docteur Hébert, dont il appréciait fort la clairvoyance en toutes choses. C'est dans ces conditions que ce jour-là, on arriva à l'hôtel du médecin. Mais au lieu de trouver M. Hébert disposé à écouter son bavardage, Picard s'aperçut du premier coup d'œil que le docteur était lui-même fortement préoccupé. Le front de M. Hébert était plus soucieux que d'habitude. Son visage, ordinairement si ouvert et respirant la bonhomie, avait maintenant une expression sérieuse, presque sévère. Il avait fait entrer les deux jeunes filles dans son cabinet de consultation sans leur adresser les quelques paroles aimables et paternelles auxquelles il les avait habituées. Et quand Picard voulut entamer la conversation, il lui imposa silence d'un geste qui arrêta instantanément la parole sur les lèvres du bonhomme, tout surpris de cet accueil qui ne lui disait rien de bon. Timidement, il se retira dans l'antichambre pour y attendre la fin de la consultation. Il se rencontra là avec le valet de chambre du docteur, un bavard que son service retenait presque continuellement auprès de son maître et qui, chaque fois qu'il trouvait une occasion de délier sa langue, ne manquait pas d'en profiter largement. Aussi, l'arrivée de Picard, qu'il n'avait pas vu depuis plusieurs jours, était-elle une bonne fortune pour le jeune domestique qui avait beaucoup de choses à raconter ce jour-là, paraît-il, car il s'empressa de dire au valet de M. de Lignières. « Je vous attendais avec impatience. »«
Ah, et pour quel motif, mon jeune ami ?»«
Mais pour avoir des renseignements, car vous êtes mieux placé que n'importe qui pour en obtenir. »«
Des renseignements ? Sur qui ? Sur quoi ?»«
Bon, voilà que vous faites l'étonner. C'est qu'alors vous devez en savoir long sur l'accident. »«
Un accident ? » s'écria Picard. « Vraiment, je vous assure que je n'ai entendu parler de rien. »«
Ce n'est pas possible. Le rapport a dû arriver complet et soigné dans les bureaux de votre maître, monsieur Picard. Et comme, en votre qualité de valet de confiance, vous avez le droit de fouiller tant qu'il vous plaît dans les papiers de monseigneur le lieutenant de police, vous n'avez pas dû manquer l'occasion de vous renseigner sur l'incendie qui a dévoré, paraît-il, 2 ou 3 maisons dans le quartier de la Bièvre.
Qu'est-ce que vous me racontez là ?
Tout ce que je sais, Pardier. Et si je vous interroge, c'est que je voudrais en apprendre davantage. » Et le jeune domestique se mit à raconter à son interlocuteur ébahi que le feu avait pris rue de l'Oursine et que l'on était venu, en toute hâte, chercher son maître pendant la soirée.
« Pour éteindre l'incendie ? » demanda Picard.
« Non, pas précisément, mais pour porter secours à quelqu'un qui se mourait. »«
Comment ? » s'exclama le valet du comte. « Il y a eu un feu considérable ? Des blessés ? Des morts, peut-être ? Et je n'en ai rien su.
Je n'ai entendu parler de rien chez nous.
Ce n'est pas possible.
C'est tel que j'ai l'honneur de vous le dire, monsieur Picard. »
Et quoi ? Continuait celui-ci en s'animant. C'est ainsi que les agents de monseigneur entendent la bonne police ? Pas un mot du terrible accident ? Pas le plus petit bout de rapport ? Et voilà comment monsieur Marest et ses hommes comprennent et font leur devoir ?
Ces mots indiquaient assez que Picard avait toujours gardé une dent au chef des agents, dont il avait eu, on s'en souvient, grandement à se plaindre lors de la recherche et de l'arrestation du chevalier de Vaudrey après l'évasion de celui-ci de la Bastille.
« Ah, voilà qui est bon à savoir, monsieur Marest, et je vais vous dire franchement ma façon de penser sur votre habileté de policier. »
Puis s'adressant au valet de chambre, « Racontez-moi, je vous prie, mon jeune ami, tout ce que vous savez du terrible accident.
Combien de morts ? Combien de blessés ?
Mais voilà précisément ce que je supposais que vous pourriez m'apprendre. Pour le moment, tout ce que j'ai entendu dire, c'est que le feu a débarrassé Paris de l'une de ces horribles créatures qui mendient par les rues et à la porte des églises. Vous la connaissiez, parbleu, bien, car on la rencontrait tous les jours et partout. La veuve du supplicié.
La Frochard ? Elle-même, monsieur Picard ?
La Frochard était parmi les blessés ?
Mieux que ça !
À l'heure qu'il est, la misérable a déjà comparu devant Satan. Malheureusement, il ne reste pas grand-chose d'elle à jeter dans les chaudières de l'enfer. Tout a été grillé dans sa bicoque, et on n'a retrouvé dans les décombres qu'un tas d'ossements à moitié calcinés.
« La Frochard est morte !» s'écria Picard en levant les bras.
« Il y a donc une justice au ciel pour punir de pareils misérables. »
« Dans tout ça, » reprit le valet de chambre,
« je vois que c'est moi qui vous renseigne et que je ne saurais rien de plus que ce que je viens de vous dire. » Mais Picard était, lui, très émotionné de ce qu'il avait appris. Il allait pouvoir annoncer la chose à Mademoiselle Henriette, qui, elle aussi, avait failli devenir la victime de cette ignoble mégère. Le souvenir de toutes les souffrances qu'avait subies la fiancée de son maître, pendant que la Frochard retenait l'aveugle prisonnière, enlevait d'ailleurs à Picard tout sentiment de pitié pour celle qui avait cessé de vivre. Puis, il faut tout dire, le vieux valet laissait pénétrer en lui une pointe de vanité à l'idée qu'il pourrait jouer un mauvais tour au policier Marest. Aussi, lorsque la consultation terminée, les deux jeunes filles vinrent le retrouver dans l'antichambre, éprouva-t-il un tressaillement d'aise. Il salua très bas, sans mot dire, le docteur Hébert. Et une fois dans la rue. « Ah, mesdemoiselles, commença-t-il, j'en ai de terribles à vous raconter. » Et sans plus tarder, il entama le récit en l'augmentant, bien entendu, de tout ce que lui avait raconté le valet de chambre concernant l'incendie de la rue de l'Oursine et la mort tragique de la Frochard. Mais il s'arrêta court, car en entendant prononcer le nom de la mégère comme une des victimes de la catastrophe, Louise avait poussé un cri déchirant et porté vivement la main à son cœur. Si Pierre n'était plus revenu depuis plusieurs jours, sous les fenêtres de l'hôtel, se disait-elle, c'est que lui aussi avait péri sous les décombres. Henriette la saisit par la taille pour la soutenir au moment où elle la sentait chanceler à son bras.
« Qu'est-ce qui vous arrive donc, mademoiselle ? s'informa Picard, tout inquiet de l'effet que ses paroles avaient produit sur l'aveugle. En même temps, le pauvre homme s'empressait auprès de Louise, lui tapait dans les mains, supposant qu'elle était menacée d'évanouissement. « Revenez à vous, mademoiselle. Je n'ai pas cru que vous éprouveriez une pareille commotion en apprenant que cette maudite vieille qui vous a tant fait souffrir... C'est le bon Dieu qui vous venge, ma chère demoiselle. C'est vrai qu'elle aurait pu mourir d'une autre manière, moins cruelle. Mais en tout cas, c'est un bon débarras pour la société qui a encore assez de malfaiteurs, de criminels dans son sein. Croyez-moi, mademoiselle Louise, ne vous chagrinez pas pour cela. » Picard, dont l'inquiétude augmentait à la vue de l'aveugle, qui, pâle comme une morte, paraissait sur le point de tomber en syncope, Picard continua dans le but de faire cesser le trouble qu'il avait involontairement provoqué chez la jeune fille. « Du reste, ce que je vous dis, je l'ai entendu raconter, un peu légèrement, par le valet de M. Hébert. Ce n'est peut-être pas tout à fait exact, et je vais demander à Monseigneur le lieutenant de police si M. Marest lui a fourni un rapport sur cet accident. Et puis nous saurons ce qu'il y a de vrai dans cette histoire. » Picard balbutiait. Il ne pouvait plus douter que la malencontreuse nouvelle n'eût occasionné un grand saisissement à l'aveugle. Celle-ci, en effet, pouvait à peine se soutenir et s'appuyait pesamment sur le bras de son ami. Henriette, d'un regard, supplia le vieux domestique de ne rien ajouter, lui faisant comprendre par un signe que Louise était très affectée. Le malaise qu'éprouvait l'aveugle la mettait dans l'impossibilité de continuer à marcher. Picard avait proposé d'aller chercher une voiture ou une chaise à porteur, ce qu'il trouverait tout de suite. « Allez, lui dit Henriette, oh, dépêchez-vous, je vous en prie. » C'est qu'à ce moment, mademoiselle Gérard sentait que l'aveugle s'affaissait entre ses bras. Et quand Picard fut parti, « Qu'éprouves-tu donc, ma chérie ? » demanda-t-elle à son amie. « Ah, je reconnais bien là ton cœur si compatissant. Tu as oublié tout ce que tu as souffert de violence et d'odieux traitements, pour ne te rappeler qu'une chose, c'est que la malheureuse qui est morte a besoin de pardon et de prière. Et tu lui pardonnes, ma sœur, et tu pries mentalement pour elle. » « Voilà tout ce que j'ai pu trouver !» s'écria Picard, interrompant la phrase que prononçait Henriette. Le digne serviteur faisait avancer une chaise à porteur. Il aida Louise à y monter. Et refermant la portière, il se tint d'un côté de la chaise, tandis qu'Henriette se plaçait à l'autre portière, dont la vitre baissée lui permettait de tenir dans la sienne la main de sa sœur. Pendant tout le temps qu'avait duré le trajet depuis la maison du docteur Hébert jusqu'à l'hôtel de Lignières, Picard n'avait plus desserré les dents. Mais dès qu'il eut reconduit les deux jeunes filles jusque dans l'appartement de la comtesse, il s'empressa de se rendre dans le bureau des agents de police. Jamais les employés de la lieutenance ne lui avaient vu un air aussi triomphant. Il était entré, le chapeau sur l'oreille, les mains croisées derrière le dos, et c'est d'un air provocateur qu'il s'informa. « Marest n'est pas ici ? Que fait donc votre chef ? Est-ce que par le plus grand des hasards, il aurait daigné faire un tour dans le quartier de la Bièvre, rue de l'Oursine, par exemple ? » Les agents avaient regardé, assez ébahis de cette entrée cavalière, celui qui parlait avec une affectation d'irrévérence du principal agent de lieutenant de police. Mais Picard ne se déconcerta pas. « Oui, poursuivit-il en toisant les policiers subalternes. Je vous demande si Marest a, par exception aujourd'hui, voulu s'assurer que sa police était bien faite. Ce n'est pas vraisemblable. Cela le sortirait un peu de ses habitudes. « Tout doux, maître Picard !» interrompit une voix arrivant de la pièce du fond. Et M. Marest se présenta, la tête haute, les yeux menaçants. « Ah, c'est vous !» fit le valet du comte. « Vous étiez là ? Et j'ai entendu de quelle façon vous vous permettez de traiter un employé de votre maître, lequel, je m'en flatte, a la confiance de Monseigneur qu'il n'a jamais trompé, lui. Entendez-vous, monsieur Picard ? Cela vous soit dit en passant. Quant à votre visite que je n'attendais pas, je vous serais obligé de m'en dire tout de suite le motif. Car, à moins que vous ne veniez de la part de Monseigneur le lieutenant de police, je ne sache pas que vous ayez quelque chose à faire dans mon bureau. Donc, parlez, mais soyez bref. Nous n'avons pas de temps à donner au bavardage, nous autres. Entendez-vous, monsieur Picard ? Monsieur Marest était fort en colère et ne mâchait pas ses mots. Toutefois, Picard en avait trop gros sur le cœur pour manquer cette occasion de prendre une éclatante revanche des torts qu'il reprochait à l'employé de service. « Vraiment, monsieur Marest, riposta-t-il, je suis fâché de vous déranger. Mais j'avais un renseignement à vous donner. qui, j'en ai la conviction, vous permettra de prouver à Monseigneur que vous êtes au courant de tout ce qui se passe dans la bonne ville de Sa Majesté le Roi. » Marest haussa les épaules. Le valet poursuivit avec un air de crânerie. « Mon Dieu, pour ne pas faire partie de la police, on n'en est pas moins curieux de connaître les événements qui peuvent se produire. C'est donc à simple titre de curieux que j'ai voulu visiter certains quartiers qui a été récemment dévoré en grande partie par un violent incendie. Bah, oui, monsieur, oui, je vous dirais même qu'il y a eu de nombreuses victimes, des blessés, des morts. Voulez-vous que je vous en cite quelques-uns? La Frochard, par exemple. Cette misérable vous a dispensé, en se laissant griller jusqu'aux os, de vous enquérir d'elle, ainsi que vous l'avez commandé, monseigneur le lieutenant de police. » Marest et les agents échangeaient des regards indiquant la surprise provoquée par les affirmations si catégoriques de Picard. Celui-ci ne s'interrompit pas. « Voilà donc qui est acquis, monsieur Marest. Les citoyens brûlent dans la bonne ville de Paris sans que vous en soyez le moins du monde informé. Alors que votre devoir serait de prévoir. Oui, monsieur, de prévoir qu'un incendie peut éclater et faire des victimes, que diable !» ajouta-t-il avec ironie. « On est bon policier ou on ne l'est pas. « Vous émargez, monsieur Marest. Vous avez des fonds à votre disposition pour mettre vos hommes en campagne. Que faites-vous donc de cet argent? L'économiseriez-vous pour acheter plus tard quelques fermes en Brie? Monsieur Picard, fâchez-vous, monsieur Marest. C'est mauvais signe. Il n'y a que la vérité qui blesse. Quant à moi, j'ai cru vous rendre service en venant vous prévenir. Maintenant, bien votre serviteur, monsieur Marest. Je cours de ce pas annoncer la sinistre nouvelle à monsieur le lieutenant de police. « Monsieur Picard !» L'employé de police était visiblement fort mal à l'aise. Il voulait coûte que coûte retenir le valet de confiance de Monsieur Deslinières. Il tourna aussitôt sa colère contre ses agents. « Que faites-vous donc, vous autres » cria-t-il d'une voix de tonnerre. « Vous n'êtes donc que des fainéants et des ivrognes passant votre temps dans les cabarets? Comment ne sais-je rien de toute cette affaire d'incendie ?» Un agent se leva. « Il s'agit d'une méchante bicoque qui a flambé en un rien de temps. » « Et ce n'est guère la peine de se déranger pour la veuve du supplicié, » fit un second. « Une bête venimeuse de moins, » surenchérit un troisième. « Et puis, » grommela un autre agent, « il y a déjà longtemps qu'on n'en parle plus de cette affaire-là, dans le quartier de la Bièvre. » Toutes ces répliques s'adressaient naturellement par ricochet à Picard, auquel les agents lançaient des regards chargés de colère. Mais le bonhomme était venu dans l'intention bien arrêtée d'être le plus désagréable possible à son ennemi. Il ne se laissa donc pas intimider par les exclamations des agents. Et saluant avec affectation leur chef, « Monsieur Marest, dit-il, je vous conseille à l'avenir de mieux prendre vos dispositions. Il y a à modifier bien des choses dans votre système de police. Et j'en parlerai à Monseigneur. Il n'est vraiment pas possible que la population continue à être aussi mal gardée. » Et il sortit avec des haussements d'épaules très significatifs. Le fait était que Marest ne savait rien du sinistre de la rue de l'Oursine et que ce fut par Picard que le lieutenant de police apprit la fin dramatique de la Frochard. Il en parla à la comtesse. Diane était à ce moment occupée à donner des soins à sa chère aveugle qu'Henriette lui avait ramené dans un état de faiblesse qui ne laissait pas que d'alarmer la comtesse. Diane avait laissé les deux jeunes filles ensemble pour accompagner le comte dans son cabinet où M. Marest venait d'arriver afin de se justifier s'il en était temps encore, de son manque de surveillance. Mais au premier mot que lui adressa M. Deslinières, il comprit que Picard avait pris les devants. « Quel renseignement nouveau m'apportez-vous, monsieur ?» prononça le lieutenant de police du ton d'un juge qui interroge. Diane, involontairement, vint au secours du policier, qui, tête basse, ne savait ce qu'il allait répondre. « Vous êtes persuadé, n'est-ce pas, que tous ceux qui habitaient la masure ont péri dans l'incendie ? » demanda-t-elle. J'aurai l'honneur de dire à madame la comtesse que la masure incendiée n'était habitée que par deux individus de la pire espèce, et dont la mort n'aura fait de peine à personne. Ces deux individus étaient la veuve et le fils d'un supplicié roué en place de grève. On la nommait la Frochard. Et enchanté de l'occasion qui s'offrait à lui de paraître bien renseigné, le policier poursuivit d'une voix plus assurée. Madame la comtesse a bien certainement fait l'aumône à cette misérable, qui avait pour spécialité de mendier à la porte des églises. « Oui, oui, » fit Diane, interrompant le récit de Marest. « Mais l'autre ?»« Le fils ? C'était un pauvre diable de rémouleur, boitant très bas, mais qui ne mendiait pas, lui. On lui prêtait quelques bons sentiments, mais c'était là un jugement hasardé. » Comment, s'il en eût été ainsi, cet individu eût-il accepté de cohabiter avec une mère semblable ?
Madame de Linière ne répondit pas. Elle se dirigea vers la porte, prenant ainsi congé du comte, qui, après l'avoir accompagné, revint auprès de l'agent de police pour dire à celui-ci.
« Je vous prends une fois encore en faute, monsieur. Pour manque absolu de surveillance des quartiers excentriques, où vous en avez la preuve, les choses les plus graves peuvent se passer. Des crimes se commettre, sans que j'en sois prévenu. »
Et d'un geste, il congédia rudement l'employé de police, sans donner à celui-ci le temps de se justifier. Picard était vengé.